Les Windsor, ben c'est la famille royale d'Angleterre. C'est encore une monarchie en place et que donc ils ont encore des privilèges.
Bonjour à toutes et à tous, it's my pleasure to welcome you today in a very special edition of your favorite show, Zoom Zoom Zen. Every afternoon with my fellow Manon, Quentin and Cyril, who don't understand what I'm saying right now because they don't speak English, we make fun, but we also make sense of our time through its words. It's what we like to call the gay savoir, the gay knowledge. Et aujourd'hui justement, je vous entraîne au cœur de la monarchie anglaise pour zoomer sur un nom qui fascine, un nom qui a même longtemps obsédé Manon Mariani, qui plus jeune rêvait évidemment d'épouser le prince William. Rappelons qu'elle lui avait envoyé un DM assez éloquent.
Vous êtes intéressé par mon corps ? Eh bien, vous pouvez l'avoir.
Son message était resté en vue. Ce nom qui fascine, c'est évidemment celui de Windsor. On croit savoir beaucoup de choses sur la famille royale la plus célèbre du monde, mais que sait-on vraiment ? Qui sont ces gens ? Notre invité a fait partie des rares journalistes accrédités à Buckingham. Aujourd'hui, il raconte ce qu'il ne pouvait pas raconter à l'époque. Alors, comment était Lady Di en vrai ? Le prince Harry est-il vraiment nazi ? Et surtout, Charles III est-il aussi exigeant que ce que la presse People a raconté qu'il voyageait avec son propre papier de toilette, sa propre lunette de toilette et que chaque matin son valet devait presser 2 cm de dentifrice sur sa brosse à dents ? Ou bien les journalistes ont-ils tout simplement confondu avec Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef royaliste ? Ah, je vous laisse, il me sonne. Zoom Zoom Zen, c'est parti !
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Marc Roche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marc, vous êtes journaliste, ancien correspondant du journal Le Monde à Londres. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur pour Le Point et pour le quotidien belge Le Soir, toujours depuis le Royaume-Uni. Mais si on vous reçoit cet après-midi, au moment où Charles III reçoit Donald Trump en visite d'État, c'est pour votre dernier livre, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, qui vient de paraître chez Albin Michel. Vous êtes tellement proche de la famille royale britannique que la photo qui illustre la couverture du livre, c'est un dîner auquel vous participez à quelques mètres seulement de la reine Elisabeth. On reconnaît autour de la table Jacques Chirac et Michel Alliot-Marie, autant dire que la photo n'est pas récente. C'est à quelle occasion ce dîner ?
C'est à l'occasion du centenaire de l'entente cordiale en 2004. Et je vais vous révéler ce que je n'avais pas osé dire à l'époque au monde, c'est que le champagne était bouchonné.
Ah. Mais, et personne n'avait mentionné. Personne
et tout le monde a dit « it's delicious ».
It's delicious. On n'ose pas dire, on n'ose pas dire ça. Alors que vous,
C'était quoi comme champagne ?
Ah, ça, je m'en souviens pas. C'était la cuvée Windsor, donc leur propre cuvée.
Une piquette,
ouais, c'est ça. C'est du mousseux, quoi.
Alors, vous qui avez pénétré dans le sein des seins de la famille royale britannique, vous allez tout nous dire sur les derniers secrets qui l'entourent, sur ces vacheries qui se murmurent aussi dans les couloirs de Buckingham. Mais d'abord, je vous présente deux spécialistes des vacheries de couloirs. À l'antenne, ils font relativement bonne figure, mais hors antenne, quand les micros tournent, sans qu'ils le sachent, ils disent de ces horreurs. Là, par exemple, je ne sais pas de qui il parlait, mais ses oreilles ont dû siffler.
Le mannequin était pas super.
Un vrai laidron, comme on dit.
Un mètre cube, j'arrivais même pas.
Manon Mariani, Quentin Mille, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Mais Quentin, on parlait de qui ?
C'est de l'IA, laissez tomber.
C'est de l'IA, bien sûr.
On va dire ça. J'aimerais bien savoir de qui on parlait.
Avec la réverb et tout, c'est pas possible. Bonjour à tous.
Vous étiez en train d'enregistrer une chanson.
Mais oui.
Je crois pas.
Manon, même si on a tous été ici très choqués par votre manière de parler de Carla Bruni, qu'on embrasse.
Carla Bruni.
Vous nous présenterez tout à l'heure votre pièce jointe.
Oui, la série culte de Netflix qui retrace l'histoire des Windsor, de la reine d'Angleterre à Lady Di. The Crown sera donc ma pièce jointe du jour.
Face à vous, Marc Roche, des intrigants, des fauchetons, vous en avez croisé à Buckingham, mais lui, c'est un poids lourd. L'autre jour, pendant le cocktail qui a suivi la conférence de rentrée de Radio France, il a demandé des nouvelles des enfants de chacun des directeurs et directrices les plus haut placés dans l'organigramme de Radio France, leur tenant la jambe pendant 20 minutes chacun. Quant à savoir comment allaient mes enfants à moi, modeste présentateur de Zoom Zoom Zen, il n'a pas posé la question.
Ah, Quentin, pas besoin, vous parlez de
Quentin,
tout le temps.
Quentin, je parle de mes enfants tout le temps ?
C'est une blague.
Très bien. Quentin, malgré tout, il vous arrive de parler avec des gens qui ne peuvent pas faire avancer votre carrière.
Oui.
C'est votre micro-trottoir, mais là, vous êtes payé pour faire ça.
Évidemment, et qu'inspire la famille royale aux passants dans la rue, aux Français en général. Élégance, flegme anglais, privilège aussi. Vos réponses et vos anecdotes complètement à la rue sur les Windsor, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, vous pensez mieux connaître les Windsor que moi. Faites très attention, j'ai bossé 4 ans avec Stéphane Bern. J'en ai gardé quelques restes, comme vous le découvrirez dans le Zoom Zoom Test spécial Petit Secret de Grande Monarchie.
Oh non.
Juste... Et pas d'imitation de Stéphane, de grâce. Juste avant 17h, Guigui Pop nous rejoindra pour une chronique certainement sacrilège sur la famille royale. Après 17h, alors restez avec nous puisqu'on zoomera sur une tendance inquiétante. Ces patrons français qui ne cachent plus leur fascination pour Donald Trump. Nous serons avec l'auteur d'une enquête sur le sujet et nous aurons peut-être aussi le témoignage du PDG des TAS, Lou Cigalou. Mais d'abord, Marc Roche, vous avez écrit plusieurs livres sur la famille royale britannique. Cette fois, vous dites « J'ai fini par me lasser de respecter les convenances. Il y a une forme de soumission à l'ordre établi que j'ai toujours trouvé pathétique. Il était temps de briser mes chaînes. » Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'omerta qui persiste encore aujourd'hui autour de la famille Windsor ?
Bien sûr, parce que tout le système est organisé autour du Royal Rota. Alors, qu'est-ce que c'est le Royal Rota, dont j'ai fait partie pendant 20 ans ? Ce sont les journalistes accrédités officiellement à Buckingham Palace. Alors, c'est un passe-droit qui vous donne accès à tous les événements royaux, aux membres de la famille royale, à leur entourage. Sans le Royal Rota, vous ne pouvez pas couvrir la monarchie. Mais
la contrepartie,
c'est bien sûr que tout est balisé. C'est-à-dire vous ne pouvez pas critiquer le système. Vous pouvez de temps en temps faire une remarque amusante, et encore, vous allez vous faire rappeler à l'ordre. Par exemple, moi j'ai dit que Sarkozy, lors de sa venue officielle à Windsor, j'étais au banquet, il est parti se coucher avec Carla Bruni, votre amie, avant la reine.
Mais non.
Ce qui est une atteinte au protocole, ça ne s'était jamais passé. Le pire aurait été de la prendre par l'épaule. Mais ça s'était déjà passé. Mais aller dormir avant la reine,
c'était jamais vu.
Ça ne s'était jamais
vous avez reproché de l'avoir mentionné dans
la... Oui, absolument. Et la deuxième chose qui a fait tiquer le palais, c'est quand Elisabeth II me dit, lors d'une rencontre, vous savez, moi je suis très inquiet pour l'avenir de la France, avec Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, j'espère que les Français vont bien voter. Donc, qu'est-ce que j'appelle ? À l'époque, c'était Edouard Plenel au Monde, je lui dis, j'ai la manchette. Elisabeth II vote Jacques Chirac. Et on l'a fait, et pendant 6 mois, j'ai été écarté du Royal Rota.
Parce que la reine ne doit pas s'exprimer sur la politique, enfin, on ne doit pas connaître ses
opinions. Certainement
pas
la politique étrangère, et certainement pas la politique britannique.
Plus tatillon encore que Charles III. Plus impitoyable avec ses valets qu'Elisabeth II, je vous présente notre rédacteur en chef orléaniste Cyril Lacarrière, le dernier salarié français à pouvoir dire en 2025 à un subordonné sans songer une minute au prud'homme.
Gérald, il y a un problème avec la machine à café.
Gérald n'étant même pas le monsieur de l'entretien, mais mon auteur. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Racontez-nous, même si c'est une très longue histoire, on imagine, les Windsor, d'où ça sort ?
Eh bien imaginez des couronnes, des bals, des manoirs, des titres à rallonge, des secrets d'alcôve, des héritiers, des scandales et des funérailles. Oh, non, vous n'êtes pas dans la télé-réalité de la dynastie de Brewer. Bienvenue chez les Windsor. Un nom qui est en fait une invention de la guerre. Car figurez-vous que jusqu'en 1917, la famille royale britannique...
Stop, ça c'est dans le quiz ça.
Oui, pardonnez-moi, mon Dieu.
Non.
Alors, vous voulez que je saute ce passage ?
Oui, sautez ce passage.
D'accord, c'est écrit, il le voit présentement.
Oui, mais c'est pas grave, il ne regarde pas.
D'accord, le problème...
Ça va peine lire.
Voilà, très bien. Alors, je reprends. Le problème, voyez-vous, c'est qu'en 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale et l'Allemagne, c'est l'ennemi. Du coup, le roi George V se dit que ce serait bien de ripolliner son image et c'est lui, le petit-fils de la reine Victoria, qui choisit de rebaptiser sa maison Windsor. Pourquoi Windsor ? Eh bien, parce que c'était le nom du château qui héberge la famille royale depuis 900 ans. Un château construit par Guillaume le Conquérant en 1070.
Et c'est un nom qui va connaître grandeur et décadence, Cyril.
La décadence, ça a d'abord été l'abdication d'Édouard VIII. C'était en 1936 et Édouard voulait épouser Wallis Simpson, mais comme la dame avait divorcé de son premier mari, c'était niette. Ah bah oui. Il a donc préféré l'amour à la couronne et c'est comme ça que l'histoire en a été bouleversée. Car si pas d'abdication, pas de roi George VI, donc pas de film, le discours du roi, sans mort prématurée de George VI, pas de jeune reine Élisabeth II et donc pas de règne de 70 ans, 7 mois et 2 jours. Pas d'Élisabeth II. Donc, pas de mariage de Charles et Diana, et pas de drame familial dévoilé dans la presse et à la télé, pas de Harry et Meghan, et même pas de série de Crown, Manon.
Oh non, on peut pas imaginer ça.
Bref, pas de monarchie transformée en soap-opéra planétaire. D'où ça sort, les Windsor ? Eh bien, déjà un peu de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci, longue Cyril. Histoire. Marc Roche, pourquoi elle fascine tant, cette famille Windsor ? C'est ce côté soap-opéra, comme a dit Cyril ?
D'abord, c'est fastueux, c'est intemporel, ça existe depuis 1000 ans... Les personnages sont hors normes quand même. Pensez à la reine Camilla, maîtresse attitrée pendant 34 ans et qui est couronnée en Mondovision. Et Shakespeare n'aurait pas pu imaginer un scénario aussi tragicomique, je dirais. Et enfin, il y a la fascination parce que les Windsor président le Commonwealth. C'est la grande famille d'outre-mer, les anciens dominions et colonies, et cela donne bien sûr au Royaume-Uni la possibilité d'être autre chose qu'une puissance moyenne, c'est du soft power, et c'est quand même un quart de l'humanité.
Mais comment on peut expliquer, alors on quitte le Royaume-Uni lui-même, où là on peut comprendre que les sujets du roi soient toujours fascinés par la monarchie, en tout cas que ça leur plaise, mais dans le reste du monde, on a l'impression qu'il y a une sympathie, en tout cas un intérêt pour cette famille qu'on suit comme ça, effectivement, comme un feuilleton, et comment expliquer que ça soit plutôt de la sympathie et pas une sorte de rejet, parce que c'est quand même des gens qui vivent avec des milliards comme ça aux frais de l'État anglais.
Pour comprendre, regardez la réception aujourd'hui de Donald Trump à Windsor. Qui d'autre peut avoir des carrosses, des gardes, des ducs, des princes et des duchesses et des princesses? Qui d'autre peut avoir ses hymnes, peut avoir ses toasts, peut avoir cette... Moi, j'ai été invité en tant que journaliste du Monde deux fois à Windsor pour la visite de Chirac et la visite de Sarkozy. C'est extraordinaire, cette table de 160 convives. C'est compliqué parce que vous êtes obligé de parler lors du plat, lors de l'entrée à gauche, lors du plat principal à droite, et au dessert, vous choisissez celle ou celui que vous préférez.
Et ça, vous avez, on vous envoie un petit mail pour vous
expliquer. Oui, ça c'est très clairement dit. Très clairement dit. Et vous ne pouvez pas parler de l'autre côté de la table parce qu'il y a 10 mètres. Et il y a de l'argenterie partout. Et vous passez votre temps comme les shadows. Vous vous souvenez des shadows? Vous vous levez parce qu'il y a tellement de toasts et d'hymnes nationaux. C'est extraordinaire. Et ça explique cet attrait exceptionnel par rapport, moi je suis belge d'origine, par rapport à la famille royale du Benelux.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
L'un des meilleurs connaisseurs du Royaume-Uni et de sa famille royale, après Stéphane Bern, je suis contractuellement obligé de dire ça, Marc Roche est avec nous pour son dernier livre, Ma vie chez les Windsor, les derniers secrets de Buckingham, c'est chez Albin Michel. Marc, on a parlé déjà du Royal Rota, donc c'est ces journalistes qui sont accrédités à Buckingham. Est-ce que pour rentrer dans ce Royal Rota, il y a une enquête qui est menée sur vous? Est-ce qu'il y a des critères à respecter?
C'est par cooptation. Le Royal Rota est organisé par les journalistes eux-mêmes, mais le palais a droit de veto. Et donc, en général, c'est que des journalistes britanniques. Mais exceptionnellement, il y avait un Belge qui travaillait pour un média français, c'était moi, parce que la reine Elisabeth II, qui surveillait de très près la composition du Royal Rota, trouvait, comme elle était très francophile, qu'elle aimait parler le français, trouvait qu'il fallait un Français.
Et donc, ça a été vous. Alors, quelque chose que vous n'auriez pas pu dire probablement quand vous étiez dans ce Royal Rota et que vous dites dans le livre, si la première impression de la famille royale est favorable, dans la réalité, ses membres sont le plus souvent épouvantables. Alors là, Marc, on veut des noms. Qui est épouvantable dans cette famille royale?
Quasi tous. À l'exception, je pense, mais je ne l'ai jamais rencontré, de Harry, qui est un peu le rebelle, qui est plutôt sympathique. Sans doute les membres secondaires de la famille royale, mais tous les membres directs, les descendants d'Elisabeth II, les quatre sont tous antipathiques.
Antipathiques, c'est comme William, il n'est pas sympa, William.
Ah, William, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il refuse d'avoir quoi que ce soit à faire aux journalistes qu'il rend responsable de la mort de sa mère à Paris en 97. Et donc, il ne veut pas les voir. Et ils font leur propre com' d'ailleurs avec les photos dont Kate s'occupe elle-même.
On dit que Charles, pourtant on dit que Charles est plutôt intéressant dans la vie, qu'il s'intéresse à plein de choses, à l'écologie, etc. Est-ce que c'est... On dit parfois que c'est quelqu'un de charmant, c'est pas le cas?
Ah bah absolument, seulement il y a deux faces. D'un côté, il est, comme vous dites, intelligent, charmant, charismatique, prévenant, intéressé par les dossiers sociaux, l'écologie, le sort des déshérités. De l'autre côté, c'est un tout autre personnage, à savoir, il est pingre. À savoir,
on arrête tout. Comment on peut être pingre quand on est
si riche?
Ça n'a pas de sens.
Il a 600 millions d'euros de fortune.
Comment se manifeste
et
alors 11, sa pingrerie?
11 châteaux. Mais il est pingre, il ne paye pas son personnel, qui est corvéable à merci et qui est nourri blanchi. Ah bah oui. Mais ils sont très mal payés, ils sont partis en grève d'ailleurs. Et il est capricieux, il est Il souffre aucune contradiction, ses collaborateurs n'osent jamais le contredire, et c'est un patron très exigeant et qui paye également mal ses collaborateurs les plus proches.
Vous dites, cet être généreux, enthousiaste, idéaliste, un peu boy scout et dépourvu de la dose de calcul, voire de cynisme indispensable aux vrais hommes d'État. Est-ce que c'est un mauvais roi, Charles III, on peut dire ça?
Écoutez, ça n'a pas d'importance qu'il soit bon ou mauvais roi, parce que le roi règne mais ne gouverne pas. Donc ça ne change rien. Je dirais que c'est un très bon roi, parce qu'il a une longue expérience des affaires régaliennes, puisqu'il a dû attendre très longtemps de monter sur le trône. Simplement, c'est un roi qui n'est pas populaire. Les gens ne l'aiment pas. Ils reportent leur amour de la monarchie sur Kate, sur William, sur Harry.
Il est très bas dans les sondages ?
Très bas dans les sondages, et Camilla est encore plus bas, sans doute à cause de l'effet Diana.
Un petit mot pour finir cette partie d'interview sur l'autre homme le plus puissant de Buckingham, Clive Alderton. C'est qui, lui ?
C'est le secrétaire privé, rouage essentiel de la monarchie, en charge de tous les contacts avec le gouvernement, le Parlement, les corps constitués, le Commonwealth, l'Église anglicane.
C'est lui qui bosse, en gros.
C'est lui qui décide de tout. Harry l'a appelé la guêpe, parce qu'il a joué un rôle essentiel dans l'éviction de Harry et de Meghan de leur fonction régalienne. Écoutez, c'est un Borgia sans le sang et le poison. Ceci dit, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il m'a dit « Appelez-moi Clive, il est francophone, francophile, un ancien diplomate absolument charmant. » Mais attention, il sait faire.
Lui, il n'a pas de sang bleu. Pire, ses ancêtres, des paysans bas-normands, ont même vécu sous le joug du baron de la Péchardière, l'arrière-grand-père de notre stagiaire Pénélope, qui elle-même enfant perpétuait la tradition familiale en lançant des cailloux sur les luis depuis les meurtrières du château pendant qu'il travaillait dans la terre. Sacrée revanche donc pour Quentin, puisque c'est la première fois qu'un lui est le supérieur hiérarchique d'une la Péchardière.
C'est vrai, c'est la première fois.
Ça vous fait tout drôle.
Vous êtes son supérieur hiérarchique.
Oui, c'est vrai, mais vous aussi.
Je suis sur les quais de Seine de Paris, vous aussi visiblement. Paris, 5e arrondissement, l'accordéon. Notre-Dame toute refaite en carte postale. J'ai mis mon béret, on est bien. Je rencontre ce trentenaire, cheveux longs coiffés en arrière, lunettes marron, jeans et bottines. Je lui demande ce que lui inspire le nom Windsor.
Bah, c'est une grande famille, non ?
Non ? Ouais, pas n'importe laquelle.
Ouais, ouais, c'est pas n'importe laquelle. Une grande famille anglaise. On est devant le café Shakespeare & Co. où je passe littéralement ma vie, donc... c'est une famille royale ?
Bah oui ! Et voyons, c'est la famille royale. Et je me rends compte que le nom en lui-même ne parle pas toujours aux gens dans la rue de prime abord. Mais alors, que lui inspire la famille royale d'Angleterre ?
Moi, j'y vois déjà une image, une sorte de prestance, un peu comme un conte de fées. J'aime beaucoup les costumes. Et j'aime aussi l'art de vivre à l'anglaise, où tout est vraiment mesuré. Quand tu me dis les Windsor, j'arrive en tea time, tu vois, j'entends une pendule, tu vois, qui... le bruit d'une petite cuillère dans une tasse, tu vois, bien calibrée, un thé, quelqu'un qui fait tu vois ce que je veux dire. Mais l'élégance.
Ouais, bah je vois parfaitement avec cette description, un peu comme pour le début d'un doux assort nouvelle formule, j'ai envie de dire, on y est. J'essaie avec ce monsieur les sourcils froncés par le ciel nuageux, mais néanmoins lumineux du mois de septembre.
Ah, il faut que je vous le lise, ouais. Les Windsor, les Anglais là.
Non,
mais
vous pouvez...
Ceux qui habitent les Angles, vous savez, l'île. Les roast beef, quoi.
Oh,
bah dis donc.
La guerre de 100 ans ne paraît pas si loin d'un coup. Mais continuons, les Windsor.
Ah là 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 là, je crois... Ils leur ont pas coupé la tête, à eux. Ils ont pas eu de révolution.
Mais non.
Je suis pas tellement au courant, moi, des histoires de la monarchie anglaise. Peut-être que je vais réfléchir et me dire, ah, tout compte fait, peut-être qu'un roi, ça mettrait un petit peu de diversité dans notre... paysage politique, notre régime. On passerait au régime sec, je sais pas.
Vive le roi, alors.
J'irai pas jusque-là.
Oui, on reste français, après tout. Laure Caroline, qui marche à toute allure dans la ville, elle est professeure en histoire de l'art. Elle découvre en passant...
Les Windsor. Ben, c'est la famille royale d'Angleterre. Voilà.
Apprenez-moi un truc.
Sur cette famille, alors, ils ont la plus belle collection au monde de dessins de Raphaël. Ça veut dire qu'ils viennent quand même d'une très très vieille lignée et que c'est encore une monarchie en place et que donc ils ont encore des privilèges.
Encore des privilèges. Je décide maintenant de longer la Seine pour arriver à Alma Marceau, au-dessus du tunnel qui nous a pris les Didi. Il y a cette flamme de la liberté, réplique de la statue, au milieu de bougies, de fleurs posées au sol, je discute.
Je venais voir pourquoi il y avait autant de photos de Lady Di 28 ans après.
C'est-à-dire ?
Je suis surpris qu'on continue à mettre des photos d'elle récentes avec des fleurs
Je me dis que peut-être c'est un anniversaire, j'ai déjà 28 ans.
Ah oui, c'était le 31 août dernier. Je lui parle du rapport que les Français ont avec la famille royale.
Mais oui, je pense que les Français sont un peu jaloux d'avoir, pas très loin de chez nous, une famille qui tient la route, se modernise, mais qui garde quand même certaines traditions, qui peuvent parfois manquer un peu en France, je pense.
Lesquelles ?
Le sens de la famille, par exemple.
Charles, divorcé ?
Ouais, on peut être divorcé et par ailleurs être très bien. Je veux dire, c'est pas incompatible. Mais malgré ça, on essaye de rester une famille soudée. Et ils essayent. Ils n'y arrivent pas toujours parce que c'est la vraie vie, c'est que c'est pas simple. Même dans nos familles à nous, c'est pas simple. Mais il y a une volonté de conserver l'esprit de famille, on va dire.
L'esprit de famille. Dans tout ça, il me faudrait quand même un Anglais. Ah, c'est oui. Ici que je tombe sur ce monsieur. Grand, les cheveux poivre et sel, qui marche dans ma direction. Il est surpris par le micro. Il s'appelle Dan et vit en France depuis 20 ans. Dan a justement un souvenir en lien avec les Windsor, un souvenir de ses années étudiantes.
Moi, je m'en souvenais aussi, j'étais à l'université à Cambridge et dans l'année où j'étais là, il y avait le prince Edward qui était venu pour faire ses études là-bas. Je ne sais pas comment il a pu avoir une place, parce qu'apparemment ses résultats à l'école n'étaient pas suffisamment bons pour avoir la place. Bon, il a eu la place à Jesus College Cambridge. Il est venu avec un entourage de 6 personnes, avec tous ses gardes de sécurité. Donc j'étais complètement contre ça, parce qu'à cause de son arrivée, il y avait 6 autres stagiaires, 6 autres étudiants qui n'ont pas pu profiter d'une éducation à l'université. Donc c'était pour ça que j'étais un petit peu anti. Hein. Donc si j'ai choisi de quitter mon pays d'origine, c'est un petit peu pour ça. J'aime pas trop l'idée de... Je crois qu'ils reçoivent trop d'argent, ils ont trop de privilèges et je ne suis pas fan.
Argent et privilèges, des mots qui résonnent comme une forme de déconnexion et qui font oublier que dans cette drôle d'histoire de couronne, si certains la portent, d'autres la payent.
Merci Quentin pour ce micro-trottoir éclairant. Marc Roche, on a l'impression que cette famille royale, elle divise en fait pas mal les gens. Certains comme Dan peuvent quitter leur pays pour s'en éloigner, alors que d'autres rêvent d'avoir la même. En fait, les Windsor, on les aime tant qu'ils ne sont pas chez nous.
Oui, absolument. Mais vous savez, même au Royaume-Uni, ils sont contestés puisque 20% du public est républicain. Essentiellement des jeunes et beaucoup issus de l'immigration qui ont du mal à s'identifier avec une institution qui reste blanche, anglo-saxonne, protestante, privilégiée. C'est l'Angleterre d'avant. Et Charles III et William représentent cette Angleterre d'avant, justement, qui ne correspond plus tellement avec... le pays tel qu'il est aujourd'hui multiculturel.
Oui, par exemple, Manon. Harry, il ne représente pas cette Angleterre d'avant. Il est lui-même parti avec Meghan Markle. Ils habitent maintenant aux États-Unis. Est-ce que ça a marqué vraiment une scission, ce départ de Harry avec Meghan ?
Ce départ de Harry a été une catastrophe pour la famille royale parce que pour la première fois, cette famille royale très blanche adoptait, pensait-on, la diversité. Et ça n'a pas pris. Et ça n'a pas pris parce que ça ne pouvait pas prendre. Elle était...
À cause de sa couleur de peau, vous pensez ?
La couleur de peau a certainement joué, mais également le fait qu'elle était comédienne, qu'elle était plutôt américaine, qu'elle ne respectait aucun protocole. Mais je pense que Harry représente, à mon avis, le meilleur de la famille royale. Parce qu'il représente le pays... tel qu'il est aujourd'hui, et qu'il ait dû s'expatrier, c'est un drame. Et d'ailleurs, les membres de la famille royale le reconnaissent que c'est un peu de leur faute, ça n'a pas pris. Ils n'ont pas aidé Meghan à s'intégrer.
Et pourtant, ce monsieur au pied de la flamme de liberté qui parle de l'incarnation de l'esprit de famille, malgré les hauts et les bas que vous citez, c'est ça qui fait que les gens peuvent se sentir proches d'eux ? Finalement, c'est une famille comme les autres.
Il y a quand même un autre exemple de... d'esprit familial que les Windsor. On ne compte plus les divorces, on ne compte plus les abdications, on ne compte plus les affaires extra-conjugales. Enfin, le roi lui-même a eu une maîtresse attitrée pendant 34 ans qui est devenue reine. Shakespeare n'aurait jamais pu imaginer ça.
Il n'y a que lui, il n'y a pas d'autres tromperies au sein de la famille Windsor, rassurez-nous Marc Roche.
Je pense qu'il y a énormément de tromperies, mais les membres du Royal Rota, les journalistes accrédités ne peuvent pas en parler. Et les Windsor, c'est bien connu, sont très procéduriers et traînent en justice dès que des journalistes osent parler des secrets d'alcôve.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, me disait souvent Stéphane Bern du temps où on bossait ensemble. J'aurais donc été gêné de ne pas lui dédier ce quiz sur les Windsor, d'autant que dans sa grande mensuétude, Stéphane a eu la gentillesse de nous enregistrer une petite intro. Alors, c'est pas un alexandrin, mais bon, c'est Stéphane, quoi.
On tire les rois à Bourg-la-Reine. Mais...
Merci Stéphane, c'est toujours bon d'avoir un vrai historien pour parrainer un quiz. Jouons au Zoom Zoom Test. Et pour cette première question, direction 1324, Édouard II nous pond une loi jamais abolie depuis qui permet donc à Charles III, en toute décontraction, aujourd'hui en 2025, de pouvoir librement cracher sur les chaussures de ses sujets, de pouvoir librement entrer chez tout citoyen anglais sans demander sa permission pour y déposer son étron royal,
mais non, mais
ou d'être automatiquement génial, propriétaire de toutes les baleines, dauphins et autres esturgeons se trouvant dans les eaux territoriales britanniques.
C'est...
Pour vous, c'est l'étron royal, évidemment, Quentin.
Non, mais...
Mais c'est une loi de 1324 à l'époque.
J'ai dit, c'est moi.
Il n'y avait pas de toilette. Donc
il n'y avait pas de toilette, c'était très pratique. Tu vois, logique qu'il ait le droit d'entrer chez vous.
On le saurait.
On le saurait, pourquoi pas. Non, c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Oui, mais oui, réponsez, vous auriez adoré la paix. Mais vu que Charles emmène sa propre lunette de WC en voyage, il n'est pas prêt de poser une pêche chez monsieur et madame tout le monde, Mr. and Mrs. Everybody. En revanche, si l'un de vos hobbies favoris est de pêcher à la baleine, comme Spencer lui, l'oncle milliardaire de Quentin au large des côtes britanniques, sachez que toute poiscaille pêchée à moins de 5 km des côtes est automatiquement la propriété de Charles III. Une loi qui concerne également les cygnes sauvages, longtemps plat de fête dans la gastronomie anglaise, si toutefois on peut parler de gastronomie anglaise. Pierre Courade aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Heureusement, on l'a bâillonné en régie. C'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Mais continuons notre balade.
Ça va enregistrer
des Windsor. Oui, bien sûr. Continuons notre balade au pays des Windsor qui, vous le savez certainement, ne s'appelle Windsor que depuis 1917. Parce que quoi ? Parce que Saxe-Bourg-Gotha, ça faisait un peu boche. Parce que Orléans-Montpezat de la Péchardière, ça faisait trop français. Ou parce que Polignac-Vétain-Bourbon, ça faisait un peu yèche.
Ah. A et B.
Comment ça, A et B, c'est là où vous ne pas. Là, il ne peut pas y avoir plusieurs possibilités. Ils avaient un nom, ils n'en avaient pas 18. Un peu... C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Une fois de plus, Quentin.
Elle a gardé dans son sasseur.
Comme en 1917, les Fridolins n'étaient pas en odeur de sainteté en Angleterre, responsable d'un conflit dans lequel le Royaume-Uni s'était engagé à contre-cœur, la famille royale Saxe-Bourg-Gotha s'est dit qu'il fallait changer tous ses titres et ses noms de famille allemands pour des titres et des noms à consonance anglaise. 9 ans plus tard, la future reine ne sera donc pas baptisée Frida, comme c'était prévu, mais Elisabeth. Elisabeth II sera pendant ses 70 ans de règne comme une mère pour les Anglais, une incarnation même de la monarchie, digne, élégante, jamais un faux pas, sauf peut-être cette idylle fugace qu'on lui prête avec Quentin lui. Elisabeth II, outre ses qualités de souveraine, justement, c'est ça qui l'excite. Elisabeth II, qui outre ses qualités de souveraine, avait développé de nombreuses compétences, comme par exemple pouvoir changer le carburateur d'un véhicule de combat, savoir reconnaître un avion au bruit de son moteur, comme Pierre Courade, ou jouer God Save the Queen à la flûte à bec.
B.
Ah.
Je vous donne l'opportunité de votre réponse. Bonne réponse de Cantelui. Elle savait tout faire, la babette. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait les mains dans le cambouis en 44, alors qu'elle était tout juste majeure. Celle qui n'est encore que princesse, elle se porte volontaire auprès des forces armées. Déterminée à mettre la main à la pâte, la future reine d'Angleterre insiste pour rejoindre l'ATS, l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l'armée britannique, quoi, où elle suivra une formation pour être mécanicienne, puis conductrice d'ambulance et de camions militaires. Elle expliquait en outre pouvoir distinguer un avion allemand d'un avion anglais à l'oreille. En revanche, elle n'a jamais su jouer l'hymne britannique à la flûte à bec. Pour ça, il y a Cyril Lacarrière. Que vous l'entendez,
C'est encore en répète, visiblement. Ouais.
Non, c'est simplement qu'il déteste les Anglais.
Il apprend.
Puisqu'on parle royauté et mécanique, Manon et Quentin, savez-vous pourquoi Charles III ne montre jamais son permis de conduire et son passeport ? Parce que ça va, on le connaît quand même. Bon. Ah. Parce qu'il est atteint de phobie administrative, ou parce que avoir des documents à son nom, sachant que tous les documents sont émis en son nom, serait idiot.
C'est. Je suis devant, je crois.
Qui est ? C'est Quentin qui est devant. Maintenant, je suis désolé. Le roi Charles III est le seul citoyen britannique dispensé de passeport et de permis, documents qui sont justement émis en son nom, frappés à son effigie. Le gars, il a des signes et des esturgeons, mais pas de permis.
Il n'a pas de permis, c'est fou ça.
Ils sont conservifs, je les hais, commentera Cyril Lacarrière, marqué au fer rouge du déshonneur depuis que son ancêtre Childéric est revenu eunuque de Waterloo, son membre charnu étant resté accroché sur une baïonnette de la perfide Albion. Cyril, qui avec son franc-parler habituel, sait s'exprimer clairement quand il veut écourter une conversation.
Silence, chroniqueur de Basse-Terre.
Ce que ne pouvait pas faire la reine-mère, savoir-vivre royal oblige. Comment faisait donc Elisabeth II pour signaler à ses employés qu'elle voulait terminer son small talk avec un interlocuteur au hasard, le président
Chirac?
Vous mettez tous vos points en jeu. C'est-à-dire que si la réponse est bonne, vous remportez le quiz.
Elle met son sac à main sur ses genoux.
Il a confondu avec Bernadette Chirac.
Ah merde.
Mauvaise réponse. C'est
les mêmes.
Vous avez raté le quiz.
Alors voilà. je vous propose Manon, je vous donne des propositions. Et vous, à vous de me dire. Elle mettait,
On y va, on regarde.
Elle voulait interrompre une conversation qui était embarrassante pour elle. Elle mettait deux doigts dans la bouche en faisant semblant de vomir.
Non mais.
Elle mettait son sac à son bras droit. Où elle faisait mine de réajuster ses gants.
Ah, oh, c'est chaud.
C'est chaud,
c'est B,
vous dites.
C'est B.
Tu penses c'est le truc
oui,
avec
le sac à main.
Pourquoi ne pas écouter quelqu'un qui nous a quand même...
Non, mais je vais suivre Quentin.
Vous suivez Quentin.
Ouais, ouais.
C'est une bonne réponse, Manon. Et c'est la victoire pour Manon Barnier. La prochaine fois que vous voyez pris au piège d'une discussion avec Pierre Courade, si jamais je mets mon fourre-tout viril à mon bras droit, ça sera le signal pour venir me sauver. Victoire des bonnes manières et victoire de Manon Mariani.
Merci.
Le spécialiste
sans
du
panache,
Royaume-Uni.
Victoire quand même.
Toujours du panache.
Pas avoir le seum. Hein. Merci.
Le spécialiste du Royaume-Uni et des Windsor, Marc Roche, est toujours avec nous pour son dernier livre, Ma vie chez les Windsor, qui vient de paraître chez Albin Michel. Marc, la semaine dernière, on en parlait hors antenne, Charles III et Harry se sont retrouvés à l'heure du thé, un rendez-vous de 40 minutes. Bon, le premier depuis un an et demi. Est-ce que ça signifie que c'est l'heure de la réconciliation ou pas du tout? Ça a fait pchit.
C'était pour la galerie, c'était pour montrer que le roi s'intéressait à ses petits-enfants aux États-Unis, les enfants de Harry et de Meghan, mais de réconciliation il n'y en a pas, il n'y en aura jamais, parce que Charles III, qui a la mémoire longue et rancunier de nature, comme tous les Windsor d'ailleurs, ne pardonnera jamais à son plus jeune fils d'avoir critiqué violemment Camilla dans sa biographie.
A raison, selon vous, qui avez suivi tout ça de très près, les critiques envers Camilla, je veux dire.
Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec Camilla, qui est devenue l'épouse de Charles III. C'est le rôle qu'a joué Camilla dans l'échec du mariage des parents. Ah. C'est surtout ça,
ça n'a été
que
jamais
Harry,
par
le plus jeune, qui a plus souffert que William, sans doute, de la disparition de sa mère en 97, n'a jamais pardonné à Camilla de Wicked Stepmother, la belle-mère maléfique, comme il l'appelle.
Quentin.
Non, mais
ah pardon, vous aviez votre doigt levé. Vous
savez, ah non, pas
vous
du tout.
Votre doigt levé comme ça, c'est là, souvent, vous
toujours
avez
le point levé, comme dirait Malvin.
Peut-être tout simplement Quentin s'ennuie-t-il. Peut-être que la monarchie.
Non,
ne
non, bien sûr.
Pas.
J'étais juste en train de demander s'ils étaient vraiment passés au 21e siècle, les Windsor. Est-ce que pour vous, je sais pas, l'administration de Buckingham est assez archaïque, les titres de noblesse à rallonge, il y a l'art du secret, vous le dites dans les lignes, les tromperies, les mensonges. Qu'est-ce que vous en pensez, qui sont dans la réalité et dans notre époque ou pas?
Écoutez, la monarchie britannique est basée sur trois piliers. L'aristocratie, l'armée, l'église anglicane, qui est la branche du protestantisme, religion officielle. Ces trois piliers, qui étaient le cas sous Élisabeth II, sous George VI, sous Charles III, et seront là également pour William, ces trois piliers sont conservateurs par nature. C'est l'establishment, c'est le pays ancien, c'est la province. C'est qui explique d'ailleurs que la royauté séduit davantage les vieilles générations que les jeunes générations.
Et un autre pilier, un pilier invisible dont on peut parler aussi, c'est tromperie. J'ai l'impression que c'est dans l'ADN des Windsor. Vous dites, les aventures hors mariage sont dans l'ADN des Windsor. Le prince Philippe a répondu à Charles quand il lui avouait hésiter à épouser Diana. Vous faites des enfants et vous restez fidèles pendant 5 ans, puis vous prenez une maîtresse.
C'est ce qu'a fait Charles III, en fait, quand il était prince de Galles. Il avait coupé tout contact avec Camilla pendant 5 ans, le temps d'avoir 2 enfants, parce qu'ils ont tous 2 enfants. Ils ont toujours l'héritier et la roue de rechange. Et donc, cela veut dire que les tromperies sont permises
après ça.
Après ça.
Mais vous-même, Marc Roche, vous êtes un peu friand de ces potins. Vous racontez une histoire entre Kate, William et la mystérieuse Rose Hanbury. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il?
Rose Hanbury est la voisine de Kate et de William dans leur maison de campagne. Mmh. Et elle est l'épouse du marquis de Cholmondeley, qui est un grand dignitaire du régime monarchiste. Et donc, la presse britannique, pendant une journée, lui a prêté une aventure avec le prince.
Pendant une journée.
Une journée, parce que l'affaire a été tuée dans l'œuf par le palais, qui a immédiatement mis ses avocats. Il se fait que je l'ai rencontrée, Rose, je peux l'appeler ainsi, Rose. J'ai rencontré Rose, très sympathique, on a déjeuné ensemble, mais on n'a pas parlé de sa vie privée.
Un petit dernier mot sur Elisabeth II. Elle a formé son petit-fils à son image, conservatrice et fière de l'être. C'est plutôt une reine qui paraît sympathique à l'étranger, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement conservateur qui était un peu braqué sur le passé plus que le futur.
Absolument, à nouveau on revient, vous savez, c'est sa génération aussi, la génération d'avant-guerre, l'Angleterre à cette époque-là, puis les piliers, l'aristocratie, l'armée, l'église anglicane, tout cela fait partie d'une culture conservatrice qu'Elisabeth II représentait. Charles III a essayé un peu de réformer, d'être plus cool sur le protocole, par exemple, d'être un peu plus familier avec le public. Il fait des vrais bains de foule. Mais William, lui, a été formaté par sa grand-mère à son image. Donc il faut s'attendre que le successeur de Charles III, qui est quand même en mauvaise santé, il a eu un cancer dont on ne connaît ni la nature ni la gravité, le successeur de Charles III sera un conservateur.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon.
Une série aujourd'hui. The Crown, la série de Netflix qui débarque en 2016, un pari énorme pour la plateforme, raconter la vie d'un personnage que tout le monde croit connaître, mais qui reste quand même une énigme, Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Pour cette série, Netflix a vu les choses en grand. À l'époque, c'est même la série la plus chère de son histoire, 100 millions de livres pour 10 épisodes. La plateforme veut imposer The Crown comme une fresque historique, luxueuse, adulte, plus intellectuelle que ses autres programmes. La première saison couvre la période 1947-1956, on y suit le mariage d'Elisabeth avec le prince Philippe, la mort de son père, son accession au trône. La série dessine le portrait d'une reine impénétrable et l'interprétation de Claire Foy, jusque-là actrice quand même assez inconnue, est saluée par la critique. Elle décroche un Golden Globe et un Emmy Award.
Évidemment, Netflix ne va pas s'arrêter là.
Et ben non, parce que The Crown est un véritable carton. Du coup, elle est renouvelée sur la durée avec une idée quand même assez originale, faire évoluer le casting toutes les deux saisons pour refléter le vieillissement des personnages. Claire Foy passe donc le relais à Olivia Colman, déjà oscarisée, puis à Imelda Staunton. Mais plus The Crown avance, plus elle s'éloigne du récit d'Elisabeth pour se concentrer sur d'autres membres de la famille, forcément, et notamment sur l'arrivée de Diana, Lady Di, un choix qui déplaît à beaucoup de spectateurs nostalgiques de la première intrigue centrée sur la reine. Et puis, du côté de Buckingham, l'enthousiasme est aussi plus mesuré concernant The Crown. Plusieurs proches de la couronne britannique ont dénoncé une fiction romancée qui déforme certains événements historiques et n'hésite pas à noircir certains membres de la famille. Alors si, selon certaines sources, la reine Elisabeth aurait beaucoup apprécié la première saison, elles disent aussi qu'elle n'a pas aimé la deuxième et notamment comment son mari y est présenté, c'est-à-dire volage et colérique. Le prince Harry, lui, a dit qu'il avait regardé une partie de la série mais qu'il ne la juge pas strictement exacte. Le prince William, lui, n'aurait pas du tout aimé comment y est dépeinte sa maman Lady Di. Le palais, lui, a toujours refusé de commenter officiellement, mais dans l'ombre, l'agacement était bien réel.
Merci Manon Marcroche. La question qui se pose est bien, est-ce qu'on regarde The Crown à Buckingham?
On n'en sait rien. Le service de presse a toujours dit que les membres de la famille royale, c'est leur vie privée, ce qu'ils regardent à la télévision. On n'en sait vraiment rien. Moi, je pense que c'est la plus belle opération de relations publiques pour les Windsor qui ait jamais eu lieu. Elle a rétabli l'image de Marc des Windsor dans le monde entier, a fait vendre la monarchie. Les Britanniques sont des experts. Ce que le public ignore, c'est que Peter Morgan, qui est l'auteur de la série, est un républicain pur et dur.
Ah, d'où son regard critique.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il est un peu le Jack Kerouac de Zoom Zoom Zen. Un Jack Kerouac qui cependant n'aurait rencontré ni le succès, ni la postérité, parce qu'il n'aurait pas écrit Sur la route, mais Adios les Bibaros. Un récit de voyage qui, je le cite, s'est mieux vendu que le dernier Bruno Le Maire.
C'est vrai.
Bruno Le Maire s'est vendu à 1774 exemplaires aux dernières nouvelles. C'est quand même pas un argument.
C'était mieux quand même,
c'est
Adios les Bibaros.
Oui, c'était mieux que Bruno Le Maire. Pierre Courade, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et a-t-on réellement besoin d'une minute pour résumer ce qu'est la famille la plus plus connues du monde après les Mariani, certainement. On pensait tout connaître sur les Windsor, la famille royale britannique. C'était sans compter Mark Roche, l'ancien correspondant à Londres du journal Le Monde, qui vient de sortir un livre dans lequel il défouraille à tout va. Il nous a décrit un roi Charles III odieux, capricieux, pingre, faisant et défaisant les carrières, jouant de son seul véritable pouvoir dans le palais de Buckingham. Rien à espérer de la part de William, biberonné lui aussi aux valeurs conservatrices de sa grand-mère. Un portrait acerbe des Windsor qu'il n'aurait jamais pu brosser tant qu'il était membre du très honorable Royal Rota, le cercle très fermé des journalistes accrédités auprès de la famille royale. Une liste qui permet de contrôler qui écrit sur quoi et donc de présenter un visage toujours parfait des Windsor. Autant dire que Mark Roche joue aujourd'hui au punk en nous racontant par exemple que la plupart des membres de la famille royale britannique sont épouvantables, au moins autant que le champagne servi lors des dîners d'État à Buckingham. Mark Roche ne s'en est toujours pas remis, on l'a compris en tout cas, qu'il préférerait partager un verre de coca avec Harry, le seul Windsor à trouver grâce à ses yeux.
Merci Pierre pour ce résumé. Marc, on a, tout à l'heure je l'ai dit mais on n'en a pas parlé, Lady Di, elle aimait l'argent particulièrement ?
Oui, oui, elle était très âpre aux gains, elle était parfaite dans cette famille.
Ah oui, t'es au bon endroit.
Ah oui, parce que la famille royale est très riche, et épingre.
C'était parfait.
Ça va ensemble.
Pour conclure en majesté cette émission sur les Windsor, sortez les tambours, faites sonner les trompettes et les grands temps d'ouïr la chronique de Guigui Pop, ou devrais-je dire Sœur Guigui.
Oui. Manant, manante, faites place et agenouillez-vous de rechef devant votre prince, Guigui du double Guy de Pop. Voilà, c'est Guy ou c'est Guy. Guy.
Guy.
Guy.
Guy.
Comment je m'appelle?
Guigui.
Attendez, Marc, vous savez pas qui je suis ou quoi? Prince Guigui, oui, c'est bien lui, personne ne calcule. Et pourtant, tout est vrai, je suis l'humble successeur de mon père qui a reçu par mon oncle en l'an de grâce 1997 le diplôme de roi de l'apéritif, Marc. Distinction officielle puisqu'elle nous a été remise dans une bourse plastifiée siglée Viva la Fiesta et qu'elle trône fièrement dans les latrines du château à côté du tableau à pins. Alors vous êtes tout impressionné, Marc, là, je vous entends plus. Attendez, c'est une nouvelle ou c'est le slibard d'Arasta Blanc? Parce que ça a coupé le souffle. Bon, j'ai donc des origines nobles et à la manière de Passepartout, ça m'a ouvert quelques portes, notamment celle de la grande famille Zoom Zoom Zen, sur laquelle j'ai pu enquêter en douce, tel un vil faquin. Une famille Zoom Zoom Zen qui emprunte plus volontiers par son absence de convenance au mot miracle qu'au Windsor. Écoutez plutôt.
Oyez, oyez, braves gens! Écoutez donc la lacrymable histoire de ces fatrouilleurs de la bande FM, la famille des 3Z. Dans cette histoire, point de trahison, point de secret, point d'histoire de denier, point d'histoire tout court. Pas grand-chose à se mettre sous la chenotte, hélas. Une histoire chiante comme la pluie sur la Grand Plaine, croustillante comme un curly dans l'eau bénite, et oui. Je vous cache pas qu'on en fait plus volontiers une chronique qu'un livre, Marc, mais bon. Cinq personnages tout de même. Manon, la vilaine ribaude. Quentin, l'infecte jouvenceau. Mathieu, la bourse molle. Et courable baveux. Et Lord Cyril Bono de la carrière, pour qui j'ai choisi ce nom en l'honneur de son chanteur préféré et qui ne bénéficie d'aucun surnom péjoratif, car c'est encore lui qui décide de mon avenir dans l'émission. Pas folle la guêpe, not crazy the bee, en deux mots. Et oui, je cultive une image d'idiot, mais pas du tout, Marc. Il y en a dans la caboche. 76 de QI, mon Marcus. Mais je suis l'inverse de la kamikaze. Je suis pas là pour me la péter. I'm not here to fart. Merci. Alors, bref, vous l'avez compris, c'est pas les Windsor, hein. Ils passent leur temps dans leur bureau, chacun sur son ordi. Alors, ils font parfois des stories au restaurant. Ah bah, quelle fantaisie. Ah bah, elle est bien belle, cette assiette. Je vais quand même la mettre en story. C'est une belle bavette. Ah, on s'éclate. Cependant, une fois, j'ai pu les voir en dehors du château. C'était en juin de l'an de grâce 2025, lors d'un banquet en l'honneur de la reine Adèle. Un banquet officiellement appelé Fête de fin d'année de France Inter, rebaptisé par les convives qui nous intéressent aujourd'hui. Hey, jeudi soir, on se démoble la gueule. Marc, vous avez dû le remarquer dans vos travaux. L'éthanol transforme volontiers le noble en gueux. Et même le distingué Lord Cyril Bono de la carrière s'était métamorphosé pour l'occasion en l'infâme Lord Benet de la grosse mine. Et avec son haleine de cracheur de feu et sa chemise ouverte jusqu'au dadbod, il s'est adressé à moi en ces termes. Ouais, Guigui, putain, paye tes chiottes, bordel, merde. Ouais, oh putain, oh Guigui, non. Guigui, attends, c'est ma chanson. Oh putain, mais viens faire la farandole, Guigui, merde. Pète un coup, putain. Voilà, pur naufrage devant la cour. Mais entendez-moi bien, maman. Entendez-moi bien, maman. Ah, oui. J'étais surpris, mais ravi, venant d'une famille où on se met régulièrement de la suze dans les reins. Suzerain, vous l'avez. J'étais comme...
J'étais comme passe-muraille au salon de la mitaine, ça m'allait comme un gant, yes. Just like pass-through walls, it fits me like a glove. C'est un festival. En conclusion, si la famille Windsor offre depuis toujours un spectacle fascinant et sans égal auquel le reste du monde ne reste pas indifférent, eh bien la famille Zoom Zoom Zen, c'est l'inverse. Tout le monde s'en carre le cul, et c'est peut-être pour ça qu'on s'y sent si bien. It smells finally so good.
Merci Guy. On vous retrouve certainement la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, et vous reprenez votre spectacle vendredi à 21h30 au Petit Palais des Glaces.
Ah oui, tout à fait, venez.
Oui, 21h30, c'est un peu tard pour moi. Tard pour
très belle description de Cyril à la soirée France Inter, faut quand même le
relever. Les lacs du Connemara.
Oui, bah bien sûr.
Merci beaucoup Marc Roche de nous avoir livré sur un plateau les derniers secrets des Windsor. Est-ce qu'il vous manque parfois les Windsor?
Mais écoutez, je suis toujours fasciné par eux. J'écris sur eux dans Le Point, j'écris des livres.
Oui, mais vous n'êtes plus dans le Royal Rota.
Ah, je ne suis plus. Mais du vous coup, je suis libre de dire ce qu'il faut dire. Zoom, zoom, zen.